Mond, Laurence Aloha, Tegi Mfatrore. Musique du monde sur RFI.
Dans cette émission, vous apprendrez à trinquer en arménien avec le groupe Papier d'Arménie qui viendra étoffer la session live à grand renfort des familles Garibian et Minassian. Et tout de suite, une parenthèse mélodieuse et aérienne avec le nouvel et quatrième album de la Québécoise Salomé Leclerc qui signe « Mille ouvrages, mon cœur ». Bonsoir.
Il y a que le jour n'était pas la nuit, mais tout comme on cherchait les étoiles avant qu'il soit minuit, Barcelone. Il y a que ce jour n'était pas d'ici, mais tout résonne. On a trouvé les rêves et on a tout bâti en personne. Tu te souviens de quoi? Dis-moi ce qui défile. Qu'est-ce qu'il y a quand tu fermes les yeux sur le film de nous là-bas? Ramène-moi encore le vent qui nous dessine. Il y a qu'on n'est pas revenu. Le bonheur ne reprendra jamais au complet ce qu'il donne. Tes yeux à Barcelone. On voyait qu'on n'était pas juste un coup de crayon carbone. Il y a un an sur la plage, il y a des ombres qui s'allongent. Tu te souviens de quoi? Dis-moi ce qui défile. Qu'est-ce qu'il y a quand tu fermes les yeux sur le film de nous là-bas? Ramène-moi encore le vent qui nous dessine.
Tes yeux à Barcelone, c'est extrait du tout nouvel album de Salomé Leclerc, c'est le quatrième. En 2011, vous aviez sorti Sous les arbres avec Émile Loiseau, puis il y a eu 27 fois l'aurore, puis Les choses extérieures, et enfin, nous avons, je dis enfin, c'est quand vous voulez, hein, Mille ouvrages, mon cœur. Est-ce que pour cet album, vous avez joué de tous les instruments, Salomé Leclerc, parce que je sais que vous êtes un petit peu habitué au fait.
Oui, une bonne partie, pas de tout, parce qu'il y a une section de cordes.
Oui.
Je peux pas être quatre cordes en même temps, mais de toute manière, j'en joue pas. Il y a une section d'instruments avant.
Ouais.
Il y a Louis-Jean Cormier, avec qui j'ai co-réalisé l'album, qui a joué des pianos, des guitares.
C'est ce que je disais à Tegi qui réalise l'émission. J'ai dit c'est marrant parce que ce disque, ça fait penser à Carquois et Louis-Jean Cormier.
Ah oui.
Ambiance. À... Oui, bah oui, oui, oui. Ben il y a sa patte.
C'est un grand compliment.
C'est vrai.
Oui, oui. Moi, Carquois étant un des groupes qui m'a influencé beaucoup.
Et eux étaient influencés par Radiohead. Donc oui, ça fait ça. Une filiation plutôt sympathique.
Oui, je trouve aussi.
Est-ce que c'est un rêve quand on est une artiste québécoise? Vous êtes de Montréal.
Je reste à Montréal en ce moment.
Oui. Est-ce que c'est un rêve de faire aussi carrière de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce que le Québec est trop petit?
Ah ben, je sais pas s'il est trop petit, je pense pas, mais ce rêve-là de venir ici, il est existant depuis le début, depuis le premier album. Ça a toujours été une facette vraiment intéressante et importante, je dirais, de ma carrière, puis de ma démarche. Ça a toujours été important de faire voyager la musique. Je viens pas si souvent que ça ici. Je venais plus que je viens maintenant. J'espère que ça va reprendre. Il y a toujours eu une belle réception aussi. Les spectacles en France, ça a toujours bien fonctionné. Belgique et Suisse aussi. Donc, c'est une facette qui m'inspire et qui m'apporte beaucoup.
Est-ce que votre travail, puisque vous chantez en langue française, en tout cas, moi je vous ai toujours connue chantant en français, peut-être déjà essayé la langue anglaise.
Je ne suis pas très bonne, fait que je me concentre sur le français.
Est-ce que le fait de chanter français, ça handicape une carrière aux États-Unis, par exemple?
Ah, je ne pense pas. Il y a des exemples récents qui nous prouvent que ça se peut. Peut-être que c'est plus difficile, mais peut-être que le démarchage est plus long et plus peut-être complexe. On dirait que personnellement, ça n'a jamais été une envie particulière. J'ai vraiment toujours eu la vision plus vers ici que vers les États-Unis, curieusement.
C'est la francophonie, peut-être, qui vous...
Probablement. L'accès à la langue, c'est plus facile aussi, justement. Tout ce qui est interview, tout ce qui est partage de paroles, d'émotions, de chansons. Malgré que l'émotion voyage beaucoup à travers la musique, peu importe la langue. Mais voilà.
Oui, pareil. Puis des fois, il y a des artistes qui ont une plume extraordinaire, sont des poètes, et c'est très gênant de ne pas les comprendre.
C'est vrai.
Ouais, je pense à des gens du Sahara, à des poètes qui parlent le tamashek, et ils ont une poésie tout à fait particulière. Et oui, ok, les vibrations, la musique, mais des fois, franchement, la traduction, ça serait bien. Ce quatrième album, vous l'avez travaillé avant, pendant, après? La pandémie.
Le mot.
Il y a avant et après, comme Jésus-Christ. C'est pratique.
Moi, c'est un pendant. C'est en fait,
c'est un pendant.
Dès le début du confinement, j'ai pris ma guitare, j'ai écrit 12 chansons.
Direct.
En 2 mois, ce qui est exceptionnel considérant ma vitesse d'écriture. Pour moi, j'écris normalement en 2 mois, peut-être une chanson et quart. Mais là, j'étais coupée des gens, puis en même temps, dans une ouverture, peut-être justement à cause que la distance était tellement intense autour que j'avais besoin peut-être d'ouvrir un peu plus pour sentir les gens, sentir autrement.
Salomé, vous étiez à Montréal pendant la pandémie?
Oui, à Montréal, confinée dans mon petit appartement.
Ah, c'est petit en plus. Bon, J'arrive pas à imaginer petit à Montréal.
C'est un 4,5. C'est sûr que petit, c'est différent d'ici. Peut-être un très grand appartement. Comparé à ici.
Avec vue sur Mont-Royal, j'espère.
Presque. C'était sur le plateau, par exemple.
Est-ce que... Alors, cet événement, vous pensez qu'il a eu une incidence sur votre créativité? Si vous avez composé 12 chansons en 2 semaines, c'est fou, ça.
Oui, c'est exceptionnel. Moi, je pense que le fait que mon horaire était complètement vide, je pouvais me consacrer complètement à l'écriture et je pouvais écrire sans avoir la pression d'écrire un album. Je pouvais simplement écrire sans le dire à ma compagnie de disques, sans le dire à personne. Puis si j'écrivais 12 pièces pas bonnes, ben ça pouvait rester dans mon ordinateur, puis j'allais me reprendre plus tard. Donc j'ai écrit des chansons sans pression, en étant dans une espèce d'ouverture un peu nouvelle. Et en fait, je dois dire que j'aime beaucoup les défis. J'aime quand je me donne des contraintes. Puis je venais d'acheter une guitare dans un pawn shop.
C'est quoi un pawn shop?
Un prêteur sur gage.
Oui, OK.
Donc,
usurier. un voleur, quoi.
Oui, j'ai peut-être une guitare volée en ce moment. Donc, j'avais acheté une guitare vraiment pas chère. C'était ridicule par rapport à d'autres belles guitares que j'ai. Et je m'étais lancé le défi d'écrire d'autres chansons, de la rentabiliser en écrivant un album. Et ça m'a donné vraiment l'élan, je pense, et la motivation supplémentaire pour que ça marche.
D'où vient Ses yeux à Barcelone, le premier titre qu'on a écouté? C'est du vécu ou c'est simplement un moment, une histoire de mots
Chaque chanson a sa part de vécu sur l'album.
Puis un peu d'imaginer, on n'est pas obligé de raconter la vérité non plus.
Non, ça j'aime ça.
Imaginer des histoires d'amour qui n'existent pas, c'est super.
Ouais, mais il faut vivre quand même un peu pour pouvoir l'écrire.
Un petit peu.
En fait, Tes yeux à Barcelone, c'est suite à un constat que 2 personnes peuvent vivre le même événement, la même expérience. Dans ce cas-ci, c'est un voyage à Barcelone. Et s'en reparler peut-être 1 an, 2 ans plus tard et se rendre compte que l'autre a complètement des souvenirs différents des tiens. Et juste le mariage de ces souvenirs-là, ça me fascinait. Moi, je me souviens de telle affaire et l'autre personne se souvient de l'autre. Donc, les souvenirs qui se contredisent, mais à la limite qui se complémentent plutôt. Là. Ça, je trouvais ça fascinant.
Ça s'appelle aussi en littérature un exercice de style, c'est-à-dire qu'on présente une scène et on le fait en plusieurs chapitres, et chaque chapitre est vu par les yeux d'une personne. Et on s'aperçoit que chacun voit les choses différemment.
Complètement.
Alors je vous propose d'écouter un autre titre où vous êtes un petit peu énervé, musicalement. Ça s'appelle Où on s'est trouvé.
Est-ce que je dois m'en aller? Est-ce qu'ici je dois me retourner?
on s'est trouvé, Salomé Leclerc? Où on s'est trouvé, ça raconte?
Où on s'est trouvé, c'est... là, on l'entend, il y a plein de questions là-dedans. C'est des couplets de questions et un refrain de...
De pas de réponse,
mais de qui apaise peut-être, qui va vers la lumière un peu. Donc, peut-être, il y a des questions, mais il y a de l'espoir. Je pense que c'est ça aussi. Musicalement, on a vraiment essayé d'imager ça de cette manière-là, dans le sens où les couplets sont un peu renfermés et les refrains ouvrent complètement. Il y a des guitares, il y a de la lumière. Pour une des premières fois, je pense, dans mes chansons, il y a de la lumière beaucoup dans ces refrains-là.
Oui, une forme de mélancolie souriante vous habille quasiment depuis le début de votre carrière, qui est à la fois longue et très jeune. Ça a démarré en 2011. Alors, pour bien des musiciens, vous êtes encore un bébé, mais un bébé qui a bien grandi. 4 disques, des tas de récompenses au Canada. Vous avez commencé à faire de la batterie, je crois, chez vous, chez des parents qui ont dû avoir de nombreux problèmes avec les voisins, parce que la batterie, ce n'est pas l'instrument le plus mélodieux et le plus doux à entendre. Ça s'est bien passé?
J'en suis encore reconnaissante.
D'avoir arrêté?
En fait, les voisins étant loin, ça a facilité les choses. Mais en même temps, j'ai grandi dans... Mes parents étant des grands amateurs de musique, ils achetaient beaucoup d'albums, mais ils en écoutaient beaucoup. Il y avait toujours de la chanson dans la maison. Mes frères, moi j'ai deux frères plus vieux qui jouaient.
Ah, c'est eux qui écoutaient Radiohead.
Oui, exactement, oui, ça vient d'eux, beaucoup. Donc c'est avec eux que j'ai commencé à faire la musique. Il y en a un qui jouait de la guitare, l'autre jouait de la basse. Et bien, la petite sœur devait avoir le complément.
Évidemment, la section rythmique.
Oui, tout vient de là.
Est-ce que c'est de faire preuve de courage que de choisir une profession artistique? Est-ce qu'à un moment, vous avez hésité entre faire des études plus classiques et la musique que vous avez donc appris en autodidacte?
Oui, en fait, j'ai 3 ans de cours en arts et technologies des médias, qui était vraiment... Mon but était de travailler sur les plateaux de tournage. J'ai vraiment manqué mon coup parce que c'était pour être derrière les caméras à cette époque-là. Comment dire? La musique a fait partie de moi depuis que j'ai 10 ans, comme on vient de dire. Puis ça a toujours resté là et on dirait sans vraiment le décider. Comme, t'sais, je ne sais même pas si c'est une question de courage. Ça a juste toujours... J'ai été chanceuse d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment et d'avoir fait que, sérieusement, que je suis ici aujourd'hui. C'est vraiment une question de rencontre. Les décisions, des fois, à un tournant. Tu sais, je pense à, justement, quand je suis sortie des études en télévision, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon gérant pendant 8 ans. Tu sais, pourquoi à ce...
Gérant, c'est ton producteur?
Mon manager.
Ton manager, ouais. Oui, pardon.
Donc, à ce moment-là, je rencontre Michel et...
Bonjour, Michel.
C'est ça. Bonjour, Michel. Merci, Michel.
Merci, Michel.
Surtout.
Ce 4e album est sorti depuis quand au Québec?
Depuis une semaine et demie.
Une semaine et demie, c'est tout petit. Ah oui, d'accord.
Il est tout chaud.
Il est tout chaud. Et vous avez déjà des retours, les passages radio, télé. Est-ce que vous avez déjà des critiques dithyrambiques vous concernant?
J'en suis encore bouleversée.
C'est vrai?
Oui. Des critiques. J'ai eu pour la première fois de ma carrière un 5 étoiles sur 5. J'étais assez fière parce que, évidemment, c'est 2 ans de ma vie et même plus, tu sais, c'est un cheminement aussi. J'ai mis beaucoup, beaucoup de moi, j'ai mis beaucoup de passion et d'amour. Puis oui, la réception est exceptionnelle.
Est-ce qu'on peut dire que sur ce disque, ou même sur les 3 autres, donc celui-là, c'est le 4e, il y aurait un thème récurrent ou une obsession? Parce qu'on dit souvent que les artistes, que ce soit des peintres, des musiciens, des acteurs, des écrivains, tournent toujours dans leur vie autour d'une même obsession ou d'une même blessure, d'ailleurs. Est-ce que vous avez cerné quelque chose vous concernant? Parce que, en fait, l'art est une forme de thérapie. Nous sommes tous handicapés et les artistes réussissent au bout d'un moment à se créer une bulle dans laquelle ils peuvent respirer, ils peuvent évoluer.
Ouais, je ne crois pas que les thématiques aient changé tant que ça. Il y a beaucoup de relations amoureuses, il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de pertes de repères, de souvenirs. Mais je pense que c'est plus dans le fait de mettre encore plus en avant, d'être plus présente, d'avoir le goût de chanter encore plus, d'interpréter et d'amener mes mots encore plus loin. Je pense que c'est une question, c'est ça, d'interprétation et de volonté d'enlever peut-être des filtres qui sont là au départ, mais qui sont nécessaires parce que sinon, c'est peut-être le choc est peut-être trop brusque.
Maintenant, vous êtes peut-être mieux articulée.
Aussi, peut-être, oui. La scène, j'espère.
La scène vous plaît?
Beaucoup.
Oui?
Oui. Ça m'a effrayée avec la pandémie. Ça m'a distanciée des scènes pendant un an et demi, deux ans. Puis là, je suis en train de monter mon prochain spectacle. Et je t'avoue qu'au début de cette pré-prod-là, j'étais un peu inquiète parce que je me sentais vraiment rouillée. Puis je me demandais à quel point j'allais être capable de remonter sur une scène puis d'assumer. Puis finalement, je me rends compte que là, plus je travaille, plus j'assume les choses. Et là, j'ai hâte de revoir le public. Là. C'est surtout ça qui me mène. Là.
Depuis la pandémie, vous n'avez pas refait de scène? Ça n'a pas été possible?
Non, c'est ça, non. Et de toute manière, la tournée a été arrêtée avec tout ça. Donc, on s'est mis en production de ce disque-là. Puis on s'est concentré là-dessus.
Salomé Leclerc, vous avez choisi le dernier titre qui s'intitule « La vie parfois », donc qui est extrait de votre tout nouvel album « Mille ouvrages, mon cœur ». Vous voulez expliquer « Mille ouvrages, mon cœur » ou vous préférez passer?
Ah ben en deux mots, c'est
deux.
Travail intérieur, travail manuel et rigueur, en fait, routine imposée de travail, une routine de travail.
La vie parfois, ça parle encore d'amour?
J'en ai pris plus que deux. La vie parfois, c'est chanson pour moi.
Ah oui?
Oui.
Vous faites une déclaration d'amour à vous-même?
Non, j'essaie juste de me rassurer, me disant ça va bien aller.
Ah, ça va bien se passer.
Il y a des obstacles.
C'est ce qu'on dit aux malades juste avant de mourir. C'est bien comme phrase. Ça va bien se passer. Décès, 14h46. Salomé Leclerc sur ses paroles.
C'est ça la vie parfois.
C'est ça la vie. Merci, à très bientôt. Portez-vous bien et rentrez bien chez vous.
Merci
à Montréal.
À toi.
Ciao,
merci.
Ciao.
Bye.
Salomé Leclerc sur RFI, notre première invitée pour l'album « Mille ouvrages, mon cœur ». And now, ladies and gentlemen, la session live.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
Genat Pasha, c'est le nouvel et deuxième album de Papier d'Arménie, un groupe composé de Dan et Macha Garibian, le père au chant et à la guitare, la fille au piano, sans oublier Ertyom Minassian qui vous fera pleurer avec son doudouk. En vrai, ils sont cinq, mais dans le grand studio de RFI, trois sera un chiffre béni, une sorte de sainte trinité. En fait, Genat chez les Arméniens, c'est pour trinquer et célébrer la vie. Le trio est donc en place pour le titre Nouba, c'est un traditionnel arménien. C'est une chanson d'amour qui dit « Tes yeux en amande sont joueurs, tes sourcils tels une lune de trois jours, tu as la grâce du cyprès, qui voit Nouba, ne l'oublie jamais. » Glurps.
Thank you.
C'était les papiers d'Arménie sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Papier d'Arménie avec le titre Noubar. Au début, je crois que c'était Noubar. Je me dis, tiens, que va faire Papier d'Arménie en Afrique du Nord ? Mais pas du tout Noubar. C'est un traditionnel arménien qui vient d'être interprété par Macha Garibian, qui était au piano, aussi à la voix, au chant. Dan Garibian, guitare, chant. Et Artur Minassian, j'allais dire un petit nouveau dans les Papiers d'Arménie, mais pas tout à fait. On va expliquer un peu le parcours de cette affaire. Papier d'Arménie, c'est un quintet, mais pour des raisons sanitaires, je ne peux inviter que 3 musiciens. La pandémie, ça vous dit quelque chose depuis un an et demi à peu près? Voilà, ben, on a les suites ici en studio. Bonsoir, madame et messieurs.
Bonsoir.
Macha, Artyom et Dan. Alors, nouvelle aventure pour ces papiers d'Arménie. D'abord, vous allez me parler du titre de l'album. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est Genats Pachas. Quand est-ce qu'on dit Genats à quelqu'un en Arménie, Dan?
Quand on boit.
Ah, ben voilà. On va au cœur du sujet tout de suite. Alors, vous êtes venu avec quoi?
On est venu avec nos instruments.
C'est un bon début. Est-ce que c'est troublant de chanter entre père-fille ? Je n'oublie pas Artyom, bien sûr. Je pensais aux harmonies de sang comme les Jackson 5, comme les Bee Gees. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on chante ensemble, quand on est de la même lignée ?
Non, parce que ça fait longtemps qu'on chante ensemble avec Macha aussi. Elle était petite, on a chanté des petites comptines, tout ça. Après, oui, quand ça devient professionnel, des fois ça...
Ça fight ?
Des fois, oui, on se heurte, mais en général, ça va, quoi. On arrive bien à trouver l'équilibre.
Et au niveau musical, au niveau harmonie, est-ce que vous sentez une différence quand vous chantez avec votre père, quand vous chantez avec quelqu'un d'autre, si vous faites un duo avec quelqu'un qui vous est étranger, niveau famille ?
C'est facile et évident. Comme j'entends sa voix depuis que je suis petite, je sais quand il respire, presque. Je pense qu'on respire au même endroit, il y a quelque chose qui est naturellement ensemble.
Alors Artyom, qui est également avec nous en studio. Artyom, vous habitez en France depuis une quinzaine d'années, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure avant de...
C'est ça.
Ça fait combien de temps que vous êtes partie prenante de l'aventure Papier d'Arménie ?
Quelques années que je travaille avec Papier d'Arménie, jusqu'à maintenant. Et ça fait plaisir de continuer toujours jouer avec Papier d'Arménie.
Bon.
Ah, ça fait 6-7 ans. Oui.
7 ans, on peut dire.
Alors, vous êtes venu avec votre instrumentarium, Artyom Minassian, il y a des instruments avant. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre chevi, zurna et pekou ? J'ai pas dit là ou le, parce que je sais pas du tout quel genre c'est.
Déjà, c'est tous mes instruments, c'est boîte abricotier, le bec, etc., les hanches, il y a différents. Le chevi, c'est une petite flûte arménienne, un peu aiguë. Il y a plusieurs tonalités et doudouk aussi, c'est un peu différent, voilà, parce qu'il y a doux blanche et il faut gonfler les joues au maximum, c'est notre technique. Pakou, c'est entre doudouk et zurna, c'est la corne et le bec, ça ressemble comme clarinette un peu, on peut dire. C'est notre technique et zurna, c'est un autre monde.
Vous avez appris les instruments avant très très tôt, vous avez fait une école, vous êtes autodidacte.
Ouais, quand j'étais 10 ans, j'ai commencé à jouer doudouk.
Doudouk, c'est l'instrument de l'Arménie.
J'ai grandi dans cette musique traditionnelle et j'aimais beaucoup en fait, et c'est pour ça que j'ai choisi cet instrument, doudouk.
Et quand vous avez rencontré l'équipe de Papier d'Arménie, est-ce que vous avez trouvé de grosses différences entre votre parcours, vos démarrages dans la musique et celle de la diaspora arménienne ? Parce que Macha n'est pas née à Erevan. Elle est...
Non, c'était super, ça marchait très bien et on a trouvé des belles musiques, des belles...
Arrangement,
quoi.
Arrangement, voilà. C'est plutôt votre domaine, c'est Macha. Ça.
Oui, mais comme je connais bien cette musique et que je l'entends depuis que je suis petite, et mon parcours de pianiste m'a fait travailler et entendre plein de choses, mais du coup, pour moi, c'est naturel d'accompagner cette musique. Je sais ce qui va sonner et ce qui serait en trop, ou ce qui reste subtil et ce qui devient du... Too much.
Alors, le titre qu'on va écouter, qui est extrait de l'album, comme ça on a un peu une idée des arrangements et surtout de la production, c'est le titre Tiflis, qui est un titre très très particulier parce que vous l'avez joué dans des conditions très étranges en Arménie. Qui veut s'y mettre, Dan, Macha ? Tin, 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 ping, pong, Dan.
Ah oui, bon, une fois on a été joué en Arménie et on a été joué au Djavar. Le Djavar, c'est en Géorgie. Et c'est une partie où il y a beaucoup d'Arméniens, là. Et la personne qui nous logeait, qui s'appelle Edo, était douanier. Et puis il s'est fait virer des douanes parce qu'il avait, pris part à la guerre du Ralabar, quoi. Et les Géorgiens ont peur, au Djabar, que les Arméniens fassent comme au Ralabar. Et alors il s'est fait virer, il était pas content. Puis dans la soirée, ben voilà, on a mangé, on a bu, et puis on a joué. Et puis à un moment, on joue Tiflis, là, c'est un morceau géorgien. Et Edo est arrivé en disant « Non, 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 faut pas jouer ça chez moi. Je veux pas que vous jouiez ça chez moi. » Alors il a fallu discuter, dire que bon, la politique et la musique, c'est très différent, quoi. Et puis qu'avant, il écoutait de la musique géorgienne. Et puis c'est pas parce que et avec ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, il en écoute plus non plus, quoi.
Et est-ce que c'est un morceau que vous n'avez pas joué, par exemple, genre à 4-5 heures du matin dans une cuisine?
Oui.
Ah, c'était ailleurs, ça, encore.
Mais oui, mais ça, c'était...
Ça, c'était encore ailleurs.
Ah,
c'était à Vanadzor, dans une ville où on jouait. C'est la ville vraiment... L'Arménie, c'est très soviétique, les bâtiments. Donc, on joue dans cette ville le soir avec une lumière un peu halogène, donc dans des conditions très rudes. Et on est logé dans une auberge de jeunesse. Et pendant qu'on fait le concert... Toutes les femmes, les filles, elles se sont affairées à préparer la cuisine, à nous faire à manger. Parce qu'on était une grosse équipe, on était avec Bratch, Papier d'Arménie et d'autres groupes. On était 20-25 sur la route.
Donc c'était avant 2015
Oui, c'était en 2006. 2006.
Ouais.
Et puis on a joué, enfin on arrive, le repas est prêt, on mange, on sort les instruments, la fête dure toute la nuit. Et à 5h du matin, mon père et Aret, l'accordoniste, il y avait aussi Bruno, le violoniste.
Bruno Girard.
Ils s'aperçoivent que dans la cuisine, toutes les femmes, elles travaillent depuis le matin, avant qu'on arrive, pour préparer à manger pour nous. Elles n'ont pas profité de la fête ni de la musique. Donc ils sont allés dans la toute petite cuisine jouer pour elles. Et du coup, on les a tous rejoints. On était 15 dans la toute minuscule cuisine. Et ça a duré jusqu'au petit matin. On a joué ce morceau, Tiflis.
Et vous allez me dire que c'était votre plus beau concert, évidemment.
Ah, c'était une des belles soirées.
Vendez tout. Non, c'est Steven Spielberg. Dites non pour E.T. C'est vraiment un mauvais plan. On écoute le début du morceau, c'est très enjaillé, très endiablé. En même temps, on se dit que ce sont des morceaux idéaux pour changer l'eau des larmes. Puis à la fin, on part dans une transe. On est presque chez les Gnawa, sauf qu'on est en Arménie. Alors, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Tiflis. Vous êtes la réalisatrice artistique de cet album, Masha. Dan, travailler avec Masha, de l'avoir comme réalisatrice, qu'est-ce que ça fait comme différence? À l'époque où vous étiez avec Bratch, il y a un changement, il y a une différence de polarisation. Là, on est sur autre chose.
Ouais, il y a une différence, parce qu'avec Bratch, on ne s'écoutait pas de l'extérieur, quoi.
C'est une histoire de mec.
C'est-à-dire, non, c'est pas ça, mais il n'y en avait pas une oreille extérieure qui écoutait, quoi. Bon, on savait aussi dire, bon, là, ce serait bien que, voilà, ça se calme un peu, là, ce serait bien que l'accordéon reprenne, là, et puis là, c'est une autre façon de travailler.
Elle est comment, réalisatrice artistique, Masha?
Ben, elle a fait beaucoup de classiques, alors c'est ce qu'il faut enlever, par exemple, voilà, c'est...
Less is more.
Oui, puis c'est bien d'épurer un peu aussi, parce que... Vous vous souvenez, dans Bratch, on a commencé, on jouait tous ensemble, puis après, on a fini. Il y avait des beaux arrangements aussi, quoi. On cherchait les tessitures des instruments, on cherchait dans papier aussi, on cherche aussi, quoi. Mais ouais, c'est une autre façon de travailler. Et puis, bon, il faut lui faire confiance aussi. Elle a une oreille musicale qui n'est pas comme la nôtre.
Artyom, est-ce qu'en Arménie, on connaissait le groupe Bratch dans lequel Dan Garibian a officié pendant de nombreuses années, dans les années 80-90, avant de faire le final, le bouquet final, le 31 décembre 2015. Est-ce que vous en aviez connu?
Oui. Dan, il est connu déjà, Dan Garibian, bien sûr. Et Bratch aussi, il y a les gens qui savent suivre, voilà.
C'est-à-dire que dans ce groupe, dans les papiers d'Arménie, tout le monde a aussi d'autres projets. Vous, Macha, vous avez votre carrière solo, les Trans Extendies, les Joy Ascension, les Mars, les disques que vous sortez sous votre nom. Et vous, Dan Garibian, en dehors des papiers d'Arménie, vous avez aussi le Dan Garibian Trio. On va s'attacher aux deux titres que vous allez jouer, Goulot et Genat Spacha. C'est comme ça qu'on dit, Macha, parce que c'est une de vos compositions.
Oui, c'est une de mes compos, mais on l'a nommée ensemble parce qu'elle synthétisait bien l'ambiance de fête du groupe.
Mais Genat, ça veut dire santé, ça veut dire à la vôtre. Et Pachas, oui. Derrière, qu'est-ce que
et
ça Pachas, veut dire?
Pachas, c'est mon pote, mon ami. Donc c'est vraiment très affectueux, quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on connaît bien.
Et Goulot?
Et Goulot, c'est une chanson d'amour. C'est mon père qui avait trouvé cette chanson.
Je m'étonne.
Et puis quand il a voulu la chanter, en fait c'est marrant parce qu'on a commencé à la répéter avant d'enregistrer. Et puis je lui ai demandé de lâcher la guitare pour aller justement sur un autre territoire au piano où j'entendais des choses que j'avais envie de proposer. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Et du coup, je trouve qu'il a...
En lâchant la guitare, il a chanté différemment?
Bah ça, en tout cas, moi, ça m'a permis de proposer d'autres harmonies à un endroit où comme tout le monde a ses habitudes et son langage, moi, avec mon langage, je lui ai proposé une autre couleur.
Sacré gueule, hein, aussi, en dehors de la voix, Monsieur Garibian. Là où c'est pas drôle, c'est que dans le seul film dans lequel je vous ai vu dans Django, on vous tue dès le début du film, j'ai trouvé ça insupportable. Est-ce qu'on vous a fait d'autres propositions depuis?
Depuis, non. Mais avant, oui, j'avais fait quelques apparitions au cinéma, quoi.
Ouais, toujours en tant que musicien ou...
Oui, souvent en tant que musicien, et rôle de tzigane aussi.
Oui.
Mais là, dans le film Django, ça, on l'oublie pas, quoi.
L'aveugle.
Je meurs au début et ouais. Je trouve c'est très bien.
Allez, c'est parti pour Goulot et Genat Spachas, un titre de Macha Garibian. C'est sur RFI dans les musiques du monde, la session live qui reçoit aujourd'hui les papiers d'Arménie.
Yelar danit Top kelati Langov zargi Yertes pati Gulundun şer Nestalati Vayle gulo Yaman gulo Gulundun çer nestalati Vayle gulo yaman yaman gulo can Gulonele gert amarak Urudelik meğrugarak Urkhemelik çursar norak Vayle gulo yaman gulo Urudelik meğrugarak Urkhemelik çur sarnorak
Gulon yele gertak piu Votch tu yerni Votch kubachchu In zivaret Kusar di hu Vayle gulo Yaman gulo In zivaret Kusar di hu Vayle gulo Yaman Yaman gulo can Gulonele gayne karis Zerkov gane gagan chizis Gertan modi chijan shnazis Vayle gulo yaman gulo Gertan modik çi canş naziz Vayle gulo Yaman Yaman gulo
Papier d'Arménie dans la session live.
Thank you.
Merci à Papier d'Arménie et l'album Genat Spachas et surtout les trois morceaux qu'il vient d'interpréter dans la session live. À bientôt sur RFI dans les musiques du monde. Ciao. RFI.